9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Imaginez un lieu pour les elfes, comme sorti d'un conte, presque hors du temps. Un palais sans âge, sans style bien défini, qui tient un petit peu du palais oriental et un petit peu du château médiéval, du temple hindou, du chalet suisse, du tombeau en forêt. Une sorte d'encyclopédie pétrifiée, comme un monde qui nierait le temps. Un ensemble insensé, composite de fontaines, de grottes, de pierres, de coquillages et d'illustrations. Ce lieu, il aurait pu n'appartenir qu'au rêve. Eh bien, il se trouve qu'il existe dans le monde réel. Il suffit de se rendre dans la Drôme, à Haute-Rive, pour admirer cet édifice qui fait 26 mètres de long sur 12 de large, autant de haut d'ailleurs. C'est une construction née non seulement de l'imagination, mais de la patience, voire de l'acharnement d'un simple facteur de campagne dont on a célébré le 19 août dernier le 100e anniversaire de la mort. Il s'appelait Joseph Ferdinand Cheval. Ce lieu, ce bâtiment aura été une source d'inspiration pour les artistes surréalistes et dadaïstes, un symbole de l'art naïf. Il a fallu 33 années d'un travail très minutieux au facteur Cheval pour bâtir son palais idéal.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
L'histoire commence dans un petit village qui est pas loin d'Haute-Rive du reste, hein, dans cette Drôme des collines toutes bosselées où serpentent les rivières et d'où le regard s'échappe volontiers vers les crêtes du massif du Vercors. C'est à Charmes-sur-l'Herbasse que tout commence. On est dans le petit village de Charmes-sur-l'Herbasse le 19 avril 1836, donc sous le règne de Louis-Philippe, pour voir naître Joseph-Ferdinand Cheval. Le village est à l'ombre d'une forteresse médiévale assez massive, assez extraordinaire et qui a dû marquer très tôt l'imagination de ce petit bonhomme, de ce Joseph-Ferdinand qui est né dans une famille pauvre. Le petit Cheval, si je puis dire, s'est mis à travailler assez tôt avec son père. Comme beaucoup d'enfants à cette époque, il n'a pas tellement usé les bancs de l'école. Il est devenu apprenti boulanger d'abord et puis il a quitté sa famille un temps pour aller trouver du travail pas très loin de là, à Valence. Ensuite, on perd sa trace pendant quelques années. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph Ferdinand? On ne sait pas tout à fait exactement. Et on le retrouve sous le Second Empire en 1867, à Haute-Rive, où il prête serment pour remplir les fonctions de facteur au poste. Il est affecté à ce moment-là dans pas mal de bureaux de la région, à Romans-sur-Isère, à Bourg-de-Péage. Et puis, en 1878, et là nous sommes à présent sous la Troisième République, Ferdinand obtient sa mutation définitive de facteur rural au bureau de Haute-Rive pour la tournée de Tersanne. Ce qui veut dire que chaque jour, il doit monter, descendre, emprunter tous ces sentiers. C'est pas rien d'être facteur de campagne dans ces années 1870. Hein. Il parcourt à pied une trentaine de kilomètres dans la région pour aller remettre le courrier partout où il le faut, parfois dans des demeures un petit peu éloignées, dans des fermes, enfin dans tous les coins possibles. Et puis voilà qu'il est en train de faire sa tournée. On est le jour même de ses 43 ans, puisque c'est un 19 avril, le 19 avril 1879. Ce jour-là, Ferdinand est en train de faire sa tournée, comme tous les jours, et il trébuche sur quelque chose. Il manque vraiment de tomber. Il baisse les yeux pour trouver le coupable de sa chute, et là, il aperçoit une pierre d'une forme bizarre. D'une forme étrange, une pierre qui va éveiller en lui des rêves enfouis. Voici ce qu'il dira lui-même de ce qu'on doit pouvoir qualifier de rencontre. Je le cite. « Mon pied avait accroché une pierre qui faillit me faire tomber. J'ai voulu savoir ce que c'était. C'était une pierre d'achoppement de forme si bizarre que je l'ai mise dans ma poche pour l'admirer plus à mon aise. Le lendemain, je suis repassé au même endroit. » J'en ai encore trouvé de plus belles. Je me suis dit, puisque la nature veut faire la sculpture, eh bien moi, je ferai la maçonnerie et l'architecture. Vous voyez ce qui se passe? Il s'agit pour cet homme qui était un poète, mais qui n'avait pas eu jusqu'alors le loisir de vivre son don artistique, évidemment. Il était pris par bien d'autres choses, le facteur cheval. Mais là, il se dit que ces pierres sont trop bizarres, trop belles, leurs formes sont trop étranges pour qu'on les laisse définitivement se perdre dans la nature. Il décide d'en faire la collection, et mieux que ça, il va fabriquer l'écrin pour ces fameux joyaux de pierre. Voilà comment commence cette idée de construire un palais, une simple pierre sur une route de campagne qui peut-être avait d'ailleurs auparavant fait trébucher d'autres personnes et qui n'attendait que ce facteur pour qu'en jaillisse le potentiel féerique et qu'il finisse par éblouir les visiteurs à travers une œuvre absolument inclassable. Le château magique du Casse-Noisette de Tchaïkovski, bien sûr, l'orchestre Philharmonia est sous la direction de Michael Tilson Thomas.
Vous écoutez Radio Classique.
Et c'est dans son potager que le facteur va ranger, classer, amasser les pierres étranges qu'il ramasse ça et là. Oh, maintenant, ces tournées de facteurs sont devenues passionnantes. Elles ne sont plus seulement une longue promenade par monts et par veaux. Elles deviennent un moyen de collecter le matériau qui va prendre toutes sortes de formes. Alors, ces formes, il a fallu les aider un petit peu. Il a fallu qu'elles viennent de quelque part. Et on est à une époque où vont avoir lieu deux révolutions extraordinaires. D'abord, la généralisation de la photographie. Et ces photographies vont servir à la presse, puisqu'on voit des magazines comme le Magasin Pittoresque ou la Revue Illustrée. Ce sont des gazettes très lues à l'époque que le facteur d'ailleurs distribue à certains de ses usagers et qui, évidemment, vont l'inspirer pour lui donner l'idée de ce que l'on construit ailleurs dans le monde. Quelques-uns des bâtiments les plus étranges de la planète sont là en photo. Il regarde ça de très près, ça l'intéresse et puis ça développe en lui cette imagination qui ne demandait qu'à s'épancher. Il va imaginer un palais. Alors, quand je dis un palais, c'est plutôt une construction inhabitable, hein, peuplée de tout un bestiaire assez incroyable, une pieuvre, une biche, un caïman, un éléphant, un pélican, un ours, des oiseaux. Mais il y a aussi des figures plus humaines, des géants, des fées, des personnages mythologiques, tout ça dans un décor général qui emprunte à l'architecture un certain nombre de ses références, des cascades, des colonnes, enfin bref, des frontons qui ressemblent tantôt à des frontons indiens, tantôt à quelque chose de plus gréco-romain, bref. C'est par ce qui est aujourd'hui la façade est que commence la construction. Ce premier édifice, ce sera une fontaine, la source de vie, c'est comme ça que l'appelle le facteur. Une fontaine entourée par un lion et un chien, et puis il va ajouter assez vite des grottes, d'autres fontaines. Il accumule les pierres, les coquillages, tout ça avec du mortier de chaux, hein. À droite, il construit un tombeau égyptien et il se dit qu'il pourra peut-être un jour être enterré là avec son épouse. Entre parenthèses, il n'aura pas cette satisfaction, le facteur cheval. On va lui refuser cette autorisation. Et puis à gauche, il y a donc un temple hindou avec une niche où est dissimulée la célèbre brouette, celle avec laquelle il est allé chercher les pierres nécessaires à la construction et qu'il appelle sa fidèle compagne de peine. Oh, elle en a fait du chemin, cette brouette. Elle a grincé sur bien des sentes et des collines. Trois géants terminent la façade et les géants en question font référence à de grandes figures de l'histoire. Jules César et Vercingétorix, là on peut se dire qu'il a quelques souvenirs, quelques réminiscences de ses manuels scolaires, Ferdinand. Et puis Archimède. Ah, c'est peut-être aussi un souvenir de la poussée d'Archimède, on ne sait pas. Alors, côté ouest, cheval reproduit dans des niches une sorte de chalet suisse, la Maison Blanche, la Maison Carrée d'Alger, un château du Moyen-Âge, vous voyez, tout, j'allais dire tout fait ventre, tout devient féerie dans cet imaginaire à la fois naïf et en même temps totalement débridé. Une mosquée va ouvrir sur la partie intérieure du palais idéal, la galerie, et dans cette galerie, un long couloir intérieur. Et là, vous tombez nez à nez avec des espèces de bas-reliefs qui figurent un dromadaire, un ours. C'est là qu'il y a l'éléphant, un chat, un loup. Il y a même un flamand là, dans un coin. Trois escaliers mènent à la terrasse et sur cette terrasse, Ferdinand Cheval installe sa pierre d'achoppement, cette pierre par laquelle tout avait commencé. Vous savez, il fallait lui trouver le plus beau des cadres. Eh bien, elle sera là, sur la terrasse, cette pierre qui l'avait fait trébucher ce matin d'avril 1879 et qui lui avait donné l'idée initiale. C'est de là que tout est parti, d'une certaine manière. Et au sommet du palais, entre Figuier de Barbarie et Aloès, va s'élever la Tour de Barbarie, un réservoir d'eau qui permettait d'alimenter le palais et sa fontaine, la source de vie, parce que ce n'est pas le tout de faire des fontaines, mais encore faut-il que l'eau puisse en jaillir. À l'époque de Ferdinand Cheval, il n'y a pas grand monde qui assiste au spectacle de cet édifice en construction. Ça reste une œuvre tout à fait personnelle à laquelle n'ont pas accès les visiteurs du temps. Mais ceux qui l'ont pu le voir, ceux qui ont pu entrer dans le palais à l'époque, ont vu fonctionner les fontaines. Bon, après, l'eau endommageait trop l'édifice et le système a été condamné. La dernière pierre du palais, elle est posée en 1912, après 33 années de labeur, et le facteur Ferdinand Cheval peut appeler son palais le palais idéal. Alors pourquoi palais idéal ? Mais il y a un jeune poète, Émile Roux-Parassac, qui en 1904 a visité le monument et qui, impressionné par l'ouvrage, a composé un poème qui s'appelle « Ton idéal, ton palais ». Et le poème a tellement plu au facteur qu'il a décidé de rebaptiser l'œuvre « Le palais idéal ». Il a retranscrit d'ailleurs le poème à l'intérieur du bâtiment. Il lui a ajouté une mention « Défense d'écrire là-dessus ». Toujours ce côté très naïf et merveilleux. C'est ce facteur qui finit donc son ouvrage par la façade nord, qui est d'une grande richesse ornementale, avec des animaux, des bêtes mythologiques, tout ça sous le regard d'Adam et Ève. On finit par où tout avait commencé, si je puis dire. La pieuvre sculptée à l'angle ouest est le point final de l'œuvre. Et sur l'angle opposé, Cheval a graffé ces mots. 1879-1912, 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuves, plus opiniâtre que moi, se met à l'œuvre. C'est un défi, en quelque sorte. Ce palais, c'est aussi un motif de fierté, évidemment, pour ce facteur qui, en 1905, disait Fils de paysan, je veux vivre et mourir pour prouver que dans ma catégorie, il y a aussi des hommes de génie et d'énergie. 29 ans, je suis resté facteur rural. Le travail fait ma gloire et l'honneur mon seul bonheur. À présent, voici mon étrange histoire où le songe est devenu, 40 ans après, une réalité. » C'est important ce qui est dit là, je crois, parce que vous savez, on visite parfois des lieux insolites. Il y a d'ailleurs des livres et des catalogues qui présentent les merveilles, les trésors insolites, etc. Eh oui, mais cet insolite, souvent, il naît de l'irréfragable volonté de construire, de bâtir, d'imaginer, de figurer chez des êtres que le destin, que la vie n'a pas mis en présence d'une éducation, d'un savoir-faire, des secrets qui permettent d'accéder à, l'architecture, à la poésie, etc. Et ça n'empêche pas d'être néanmoins poète et architecte. 40 ans après, le monde a bien changé. Les soubresauts de l'histoire ont transformé le quotidien de la société française. Vous imaginez, 1912, on est loin de 1879, bien sûr. Alors quand même, le temps s'est un peu suspendu à Haute-Rive avec ce monument qui émerge comme une relique venue d'un autre monde. Il a 76 ans, Ferdinand, à l'époque. Il regarde, il contemple le fruit du travail achevé. À ses yeux, nous dit Gaspard Le Marinier, qui a préparé cette émission, son palais n'est pas seulement une construction de pierre, c'est un hommage aux cultures, aux civilisations qu'il a rêvées, un véritable poème de pierre dédié à la beauté universelle ou à ce qu'il s'en figure. C'est un musée sans collection, un temple sans culte, un palais sans roi, où chaque recoin ne semble contenir qu'une part de mystère. L'Orchestre symphonique de Detroit sous la direction de Paul Paré interprétait cette célèbre marche funèbre d'une marionnette de Gounod.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Célèbre cette marche funèbre parce que c'était le générique de l'émission d'Hitchcock, bien entendu. Donc, à partir du 1er janvier 1905, Cheval va faire visiter son palais. Lui-même le fait visiter. Il y a une billetterie avec un livre d'or pour les illustres visiteurs. Et il y en aura d'illustres visiteurs. André Breton, Pablo Picasso, Paul Éluard, et puis plus tard Robert Doisneau, encore plus tard Tinguely, Niki de Saint-Phalle, qui vont s'inspirer, mais vraiment, et même beaucoup de lui, ou encore Agnès Varda. André Breton, qui considère Cheval comme une sorte de précurseur de l'architecture surréaliste, visitera le palais à plusieurs reprises et en 1932, il rend hommage au facteur Cheval dans un poème qui s'intitule « Le revolver à cheveux blancs ». Nous, les oiseaux que tu charmes toujours du haut de ces belvédères et qui, chaque nuit, ne faisons qu'une branche fleurie de tes épaules au bras de ta brouette animée, qui nous arrachons plus vifs que des étincelles à ton poignet, nous sommes les soupirs de la statue de verre qui se soulève sur le coude quand l'homme sort et que des brèches brillantes s'ouvrent dans son lit, brèches par lesquelles on peut apercevoir des cerfs au bois de corail dans une clairière et des femmes nues tout au fond d'une mine. Il faut lire ce poème de Breton. Alors, je vous ai dit que le facteur Cheval n'avait pas eu le droit d'être enterré dans son palais. Ça n'empêche pas de se faire son propre tombeau, inutile de vous dire que ce ne sera pas une simple pierre tombale. Voilà ce qu'il disait. Après avoir terminé mon palais de rêve à l'âge de 77 ans et 33 ans de travail opiniâtre, je me suis trouvé encore assez courageux pour aller faire mon tombeau au cimetière de la paroisse. Là encore, j'ai travaillé 8 années d'un dur labeur et j'ai eu le bonheur d'avoir la santé pour achever ce tombeau appelé le tombeau du silence et du repos sans fin. Il sera achevé en 1922, ce tombeau. Il était temps, si je puis dire, puisque le facteur mourra le 19 août 1924. Entre parenthèses, vous voyez comme le 19 est partout présent dans sa vie. Il est né un 19, il a trébuché sur sa pierre un 19 et il a rejoint un 19, cette éternité qu'il n'avait somme toute jamais cessé d'habiter.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Le palais du facteur cheval a été classé monument historique en 1969 par le ministre de la Culture de l'époque, bien sûr, par André Malraux, qui le considère comme une référence de l'art naïf. Et voici ce que disait Malraux, justement. « Qu'est-ce que le palais idéal ? C'est le seul exemple en architecture d'art naïf. L'art naïf est un phénomène banal, connu de tous, mais qui n'a pas d'architecture en un temps où l'art naïf est devenu une réalité considérable. Il serait enfantin de ne pas le classer, quand c'est nous, Français, qui avons cette chance de la posséder, la seule architecture naïve du monde, et attendre qu'elle se détruise ? » L'inspecteur envoyé sur place indiquait pourtant dans son rapport que le palais était un ramassis d'insanité qui se mêle dans la cervelle d'un rustre. On ne saurait parler d'art dans ce cas-là. Alors vous avez à choisir entre l'avis de cet inspecteur général et l'avis de M. Malraux.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Gaspard Le Marinier de nous avoir fait revivre cette aventure assez insolite et... À propos d'insolite, voici Christian Morin. Bonjour mon cher Christian.
Écoutez, je ne me suis pas penché encore sur le fait de ramasser des pierres, des cailloux, de les assembler.
Des petits coquillages.
C'est formidable. Ce facteur cheval, c'est fascinant.
Oui, c'est vrai.
Merci de l'avoir évoqué. Cet après-midi, on va rejoindre une ambassade avec Saint-Simon.
Oui, monsieur de Saint-Simon, le duc de Saint-Simon, c'est bien le mémorialiste de la cour de Louis XIV, mais on oublie parfois qu'il a effectivement été ambassadeur.
Vous nous raconterez tout cela entre 14h et 14h30, avant Pauline Lambert, et on vous retrouve bien sûr demain matin.
Avec grand plaisir.